Tamani. Voici nos informations en français.
Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de cette édition. 173 cases et 59 des 61 greniers ont été volontairement incendiés ou pillés. La mission d'enquête de la MINUSMA sur les exactions commises à Koulongo le 1er janvier dernier a rendu publique ses conclusions. Les précisions dans ce journal. 29 janvier 2016, 29 janvier 2019, 3 ans jour pour jour que les proches du journaliste Birama Touré sont sans nouvelles de lui. Ils se mobilisent pour que la lumière soit faite sur sa disparition. Comment vivent les étudiants nigériens au Mali? Ils sont au moins 300 dans le pays. Selon certains, leurs conditions de vie sont difficiles. Les détails de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté. 36 personnes tuées, dont des femmes et des enfants, une soixantaine de greniers et de cases volontairement incendiées. C'est ce que révèlent les enquêtes diligentées par une équipe de la MINUSMA à Koulongo suite à l'attaque de janvier dernier. Ces investigations se sont déroulées du 7 au 11 janvier. Ce rapport parle également de l'arrestation d'une dizaine de personnes soupçonnées d'être parmi les auteurs de cette attaque. Les détails avec Hamadoun Hamamaïga.
Ces enquêtes confirment le bilan officiel du gouvernement du Mali de 36 morts, mais donnent plus de détails sur l'attaque de Koulongo le 1er janvier dernier. 8 des 36 victimes ont d'abord été exécutées puis brûlées dans leur case. 3 corps ont été mutilés, explique le rapport. Quant aux blessés, le document parle de 9 personnes, parmi lesquelles une femme très âgée qui a finalement succombé à ses blessures. Ces assaillants ne se sont pas limités seulement à ces tueries, mais ont également brûlé des cases et des vivres. 173 cases et 59 des 61 greniers ont été volontairement incendiés ou pillés, concluent les enquêteurs de l'aménagement. Selon la mission des Nations Unies au Mali, l'attaque a été perpétrée par une centaine d'individus armés identifiés comme des chasseurs traditionnels appelés Donsou. Selon les rapports d'enquête, ils sont appuyés par d'autres individus venant des villages avoisinants. Ce document souligne également que ces Donsou se sont servis de fusils de chasse, d'armes automatiques et semi-automatiques pour exécuter sommairement les victimes, dont une femme et 4 enfants. Toujours selon les documents, les femmes appuyées par les casse-couleurs de l'aménagement ont arrêté une dizaine de personnes impliquées dans l'attaque et une enquête judiciaire a été ouverte par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mopti.
Par ailleurs, selon le rapport de la MINUSMA, il y a eu au moins 15 autres attaques perpétrées dans les 2 derniers mois de l'année 2018. Elles ont toutes été signalées dans le cercle de Bankas et ont visé aussi bien les communautés Peul que Dogon. Un mois après cette attaque de Koulongo dans le cercle de Bankas, la situation sécuritaire est calme selon les autorités. Pour le préfet du cercle, l'installation des postes de sécurité à Koulongo et Dialassagou ou encore le début du processus de l'IDEA dans la localité ont contribué à l'apaisement des conflits. Boubacar Kané, préfet du cercle de Bankas, joint par Hamadoun Hamamaïka.
Un mois après Koulongo, la situation a beaucoup évolué et favorablement dans la mesure où les forces de sécurité ont été déployées dans plusieurs endroits du cercle. Il y a Koulongo, il y a Dialassagou et Bankas même a été renforcé. Donc ce déploiement des forces de sécurité a pu stabiliser grandement la situation sécuritaire dans mon cercle. Et en plus du volet sécuritaire, il y a un volet de renforcement de cohésion sociale, de retour de la confiance entre les communautés. Il y a c'est-à-dire démobilisation, désarmement. Ce volet est aussi actuellement en cours et je pense que ça commence à donner des résultats.
Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. 3 ans après sa disparition, Birama Touré, journaliste au Sphinx, reste introuvable. Une situation qui laisse ses proches entre inquiétude et incompréhension. Au même moment, les proches de Siaka Tamboura sont sans nouvelles de lui depuis plusieurs semaines. Il aurait été enlevé dans la région de Mopti. Le point avec Momine Sindebou.
Birama Touré est porté disparu depuis le 29 janvier 2016 et jusque-là, les différentes initiatives entreprises par la presse malienne pour le retrouver restent vaines. Parmi elles, la semaine d'alerte de la presse ainsi que l'ouverture d'une procédure judiciaire. Les parents et proches de Birama Touré sont aujourd'hui entre désolation et impatience. C'est dans ces contextes que la disparition d'un autre journaliste du nom de Ishaka Tamboura est annoncée. Ce dernier aurait été enlevé le 29 décembre novembre 2018 par des hommes armés non identifiés. C'était entre Boni et Nokara dans le cercle de Douanza, région de Mopti, de retour de son village natal. Au même moment, au moins 3 journalistes sont appelés à la barre pour comparaître cette semaine. Ces derniers sont accusés de diffamation.
Au moins 300 étudiants nigériens vivent au Mali. Ils sont répartis entre différentes facultés et écoles supérieures de l'université de Bamako. Leurs conditions de vie ne sont pas toujours reluisantes. De retard de paiement de bourse pour certains, absence pour d'autres, les conditions sont difficiles. Selon eux, certains multiplient les petits boulots pour pouvoir s'en sortir. Notre consoeur Rukayatou Abdourahman, de Studio Kalangou au Niger, en mission à Bamako, est allé à leur rencontre suivant son reportage.
Au Mali, les étudiants nigériens sont principalement inscrits dans des filières comme la médecine, l'agronomie et les sciences techniques. Pour un effectif de près de 300, peu d'entre eux bénéficient de la bourse d'études. Sur le campus, difficile d'avoir des chiffres exacts sur le nombre de boursiers. Ces étudiants boursiers accusent des retards dans le paiement de leurs frais de scolarité et de location à usage d'habitation. Aminou Mokhtar Ali, étudiant nigérien à l'école de médecine du Mali et secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens au Mali.
Nous avons des reliquats des frais de scolarité de l'année passée qui n'ont pas été envoyés jusque-là. Donc la situation, elle est un peu catastrophique. Comme on n'a pas trop les moyens de pression, on s'accentue surtout sur la presse. Comme il n'y a pas longtemps qu'ils ont amené l'ambassade, on essaye de tisser de très bonnes relations.
Hamza Mustafa est une autre étudiante nigérienne au Mali. Depuis 6 ans, ses parents lui versent chaque année 300 000 francs comme frais de scolarité. Pour joindre les deux bouts, la plupart des étudiants s'adonnent à d'autres activités, nous explique-t-elle.
Je suis là depuis 6 ans. J'ai connu comme tout étudiant des hauts et des bas. Chaque étranger ici nigérien paye 300 000 par an des frais de scolarité. Deux étudiants ont des activités à part. Les gens se débrouillent, les petits commerces, la vente des basins et tout.
Face à l'inaccessibilité de l'internat, Mohamedou Faisal, étudiant en 7e année de médecine, est obligé d'être en location. Pour s'en sortir, il multiplie les gardes de nuit dans les hôpitaux.
Le loyer, le minimum, c'est à partir de 15 000 francs le mois, voire jusqu'à 50 000 sur 15 000, en fonction des critères des chambres. Les conditions de vie sont très difficiles ici. Souvent, je fais quelques travaux, je pars, je fais mes stages. Souvent, tu arrives à voir les gardes là, quelques 2 000 francs, 5 000 francs, tu joins les deux bouts en attendant.
Pour Mohamedou, l'État nigérien doit s'investir à alléger la souffrance de ses étudiants à l'étranger. Il propose la construction de bâtiments pour loger ces derniers.
Ce reportage s'inscrit donc dans le cadre des séries de production réalisées au Mali et au Niger par les studios Kalangou et Tamani. L'objectif est de développer la collaboration entre les projets de la Fondation Hirondelle. Fruits, brochettes, arachides, eaux, etc. Les postes de contrôle et de sécurité sur les axes routiers reliant les villes au Mali sont devenus le carrefour d'affaires pour certains. Plusieurs petits commerces se développent autour. Ces activités permettent aux populations riveraines de subvenir à leurs besoins et les voyageurs semblent trouver leur compte en procédant à de petits achats. Notre reporter Fatih Yattara s'est intéressé à la question suivant son reportage.
Dans cette ambiance, ces produits à la vente sont composés entre autres du pain, de la viande grillée, de l'eau, de la boisson, des œufs, de la banane et du crédit de recharge. Ces vendeurs ambulants très enthousiastes avouent s'être frottés les mains.
Mais pour le faire,
je vends du manioc, je m'en sors bien. Je peux faire une recette de 5000 francs ou plus par jour.
Moi je suis vendeur de cartes de recharge et puces. Ça marche pour moi. Je vends au moins 10 puces et plusieurs cartes de recharge en une journée.
Je vends des noix de cajou et du pois sucré ainsi que des œufs durs. Je peux vendre 10 000 à 15 000 francs par jour.
Je suis boucher. Les clients viennent en grand nombre. J'avoue que ça va.
Merci.
Quant aux voyageurs, la satisfaction se lit aussi sur leur visage. Ils se réjouissent des services de ces vendeurs. Selon eux, avant cette initiative, les voyageurs sont confrontés à certaines difficultés tout au long du trajet de leur voyage. Ceux qui avaient faim ou soif avaient peu de solutions.
C'est bien parce que avant là, si tu as quitté Bamako pour mon petit, tu arrives à 100 ou bien village là, tu trouves rien à manger. Tu peux faire 2 jours, 3 jours sur la route sans manger. Les gens souffrent. Mais aujourd'hui là, alhamdulillah, c'est bien. Les vendeuses viennent jusqu'au véhicule, les gens achètent à manger.
Sur certains axes, la majeure partie de ces vendeurs ambulants est constituée des élèves de scolarisés suite à l'insécurité. Fatih Yattara, de retour de Ségou.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Actualité régionale de la région de Mopti, 42 femmes et des enfants se sont réfugiés à Koro mardi dernier. Ils ont fui les conflits intercommunautaires à Gonoguru, dans la commune de Djankabou. Selon des témoins sur place, ces déplacés manquent de tout. Dans un instant, ce sera le grand dialogue. Bonsoir Mohamedou Touré. Ce soir, vous allez parler de quel sujet ?
Oui, bonsoir à Assetou Kanté. Le thème du grand dialogue de ce soir, c'est le CFA. Faut-il en sortir? Nous avons trois économistes comme invités. Modibo Mao Makalou, ancien conseiller aux affaires économiques à la présidence, professeur Abdoulaye Niang, directeur du Centre Séné, et docteur Abdoul Karim Diamouténé, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion.
Merci et très bon débat. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez à notre écoute. Dans un instant, la question A.
C'est Tamani.